Voilà, pour nous, nous allons continuer dans l'évangile de Marc, chapitre 9. Et je vais lire en première partie, puisqu'il va y avoir deux parties ce matin. En première partie, je vais lire à partir du verset, chapitre 9, verset 14 à 29. Et après, on lira la suite. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Il leur demanda : De quoi discutez-vous avec eux ? Et un homme de la foule lui répondit : Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. Ou on le lui emmena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père : Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu veux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit : Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit : Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'en rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence l'enfant, devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ? Et il leur dit : Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Vous en conviendrez bien que c'est un passage assez particulier. Alors, j'ai intitulé aussi ce passage « Seigneur, donne-moi tes secrets ». J'avoue qu'on aurait besoin de connaître les secrets du Seigneur dans une telle circonstance. Le premier message que je vous ai parlé, que je vous ai dit, et que le Seigneur a donné, le premier secret, c'est que la souffrance conduit toujours à la gloire. Il n'y a pas de chemin sans la croix. Ça, c'était ce que nous avons vu précédemment. Tout d'abord, nous avons vu la confession de Pierre, de l'apôtre Pierre, tu es le Christ. Deuxièmement, nous avons vu le deuxième indice, la confusion, donc par rapport à sa mort, les disciples qui n'acceptaient pas que Jésus allait mourir. Ensuite, le troisième indice, c'est la confirmation avec la transfiguration, que quelques disciples ont pu voir cela. Et ensuite, vous avez la correction quand Jésus redescend avec les trois disciples. Eh bien, il va leur expliquer l'histoire de Élie et sa venue. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer au travers de ce texte le deuxième secret que le Seigneur va partager à ses disciples. C'est par la foi que vient la puissance de Dieu. C'est par la foi que vient la puissance de Dieu. Alors, quand on regarde notre vie, la vie normale, la vie du chrétien, la Bible nous dit que nous devons vivre par la foi. Et la vie de foi, c'est quelque chose que nous voyons au travers de la parole de Dieu. Dans l'église primitive, par exemple, Paul, et puis bien d'autres personnes, ont dit des choses. Par exemple, laissez-moi vous rappeler l'apôtre Paul, quand il écrivit aux croyants, aux croyants de Corinthe. Il leur dit « Marchez par la foi et non par la vue ». Voilà ce qu'il leur dit à l'église de Corinthe. C'est-à-dire, si vous voulez marcher dans le Seigneur, votre vie chrétienne, vous devez marcher par la foi et non par la vue. Il va dire un petit peu plus tard à l'église de Galate, « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu ». C'est-à-dire qu'il rappelait aux Galates, à l'église de Galate, que sa vie, c'est pas une vie, je dirais, c'est une vie spéciale. Elle doit avoir la foi en Christ et que ses regards étaient sur le Christ. Un autre passage qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. La personne qui a écrit cette épître a dit et a donné un texte que beaucoup de chrétiens connaissent. Laissez-moi aller juste vous rappeler ce texte. C'est au chapitre 11 et les versets premiers. Juste pour faire un petit rappel que nous vivons par la foi et non pas par la vue. Chapitre 11, verset 1er qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et il va dire un petit peu plus loin, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est-à-dire que on peut prétendre chercher Dieu, mais si nous nous approchons de Dieu, eh bien il faut avoir de la foi pour croire que Dieu est le créateur de l'univers, de croire que c'est lui qui en est celui qui a créé toutes choses. Jésus va dire à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 29. À Pierre, bien plus tard, quand le Seigneur était parti, et quand Pierre a écrit à ses lecteurs, à une église qui était persécutée, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. » Quelque part, tous ces versets nous rappellent que la vie est une vie de foi et que nous devons vivre par la foi. Et par la foi vient la puissance de Dieu. C'est-à-dire nous devons faire confiance à notre Seigneur Dieu. Un chrétien a confiance en Dieu malgré le fait qu'il ne l'a pas vu. Un chrétien a confiance en Christ même s'il ne l'a pas vu. Un chrétien a confiance au Saint-Esprit et pourtant on sait très bien qu'il habite en nous. La Bible nous dit qu'il est notre consolateur. Un chrétien est sauvé par la foi, nous dit la parole de Dieu. Un chrétien est sanctifié par la foi. Il s'approche de Dieu par la foi. C'est-à-dire que c'est la foi, cette foi n'est pas forcément parfaite, mais la Bible nous dit qu'elle est suffisante. Et elle est la raison même de l'humanité qui s'approche auprès de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés, la Bible nous dit. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous a donné, à un moment donné, cette foi pour que nous puissions nous approcher de lui. Nous voyons dans ce texte que les disciples, jusqu'à présent, marchaient par la vue. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient en train de suivre Jésus, et Jésus était là à côté d'eux. Dans toutes les situations, je dirais, Jésus contrôlait tout. Jusqu'à présent, Jésus contrôlait tout. Toutes les situations, C'était Jésus qui maîtrisait. Les miracles, c'était Jésus qui maîtrisait. Le témoignage, c'est Jésus qui maîtrisait. Les prédications, c'était Jésus qui les faisait. Il vivait par la vie. Je voudrais aussi vous rappeler que le Seigneur avait donné à ses disciples le pouvoir de guérir. Et vous avez ce texte qui est quand même incroyable. Les disciples avaient le pouvoir de guérir les démons, de les délivrer, les gens. Je voudrais juste vous rappeler ce verset qui est juste un petit peu avant de ce passage que nous venons de lire. C'est au chapitre... chapitre 6, quand Jésus va envoyer ses disciples pour aller délivrer, ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérissèrent. Donc le Seigneur leur avait donné quand même un pouvoir de guérir les démons, de guérir les malades qui venaient à lui apparemment. Là, ils ont un petit peu des difficultés. Et on s'aperçoit bien vite que la vie est un petit peu comme cela. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on entend souvent que la vie chrétienne est un peu un pays de montagnes et de vallées. C'est-à-dire que bien souvent, on peut se retrouver au sommet, ce qui était le cas pour les disciples, trois en tout cas d'entre eux, qui étaient partis avec Jésus dans la transfiguration, et d'autres étaient restés dans la vallée, et qu'ils ont vécu quelque chose de merveilleux, ces trois, qui étaient avec Jésus, et puis quand ils redescendent dans la vallée, eh bien ils s'aperçoivent qu'il y a là une difficulté, ils étaient incapables de délivrer cet enfant de démoniaque qu'il était bien particulier. En attendant, l'enfant est là, il a une situation, le père leur explique la situation, et je voudrais juste vous rappeler que des fois il y a des détails dans la Bible, vous avez cela dans le verset 22, « Si tu peux faire quelque chose pour moi, Seigneur. » Voyez-vous, c'est un détail dans la Bible, mais quelque part ils remettent même un peu en doute, « Peut-être, Seigneur, tu peux faire quelque chose pour mon enfant. » Enfin, en tout cas, si tu peux faire quelque chose, et je pense que le dialogue qu'il y a eu entre le Seigneur et cet homme nous montre bien qu'à un moment donné, le Seigneur, en lui posant la question du fait combien de temps il était malade, eh bien ça a remis les choses en place, puisque le Seigneur va lui rappeler que tout est possible à celui qui croit. Et de suite après, il va faire une confession, verset 24, « Viens au secours de mon incrédulité. » Donc la situation a mis ses disciples dans une grande difficulté. Ils avaient apparemment un embarras, puisque tout le monde, les scribes de l'époque, devaient se frotter les mains. Voilà, ils disent qu'ils ont un certain pouvoir, mais ils sont incapables de guérir cet enfant. Bien sûr que le Seigneur va réagir avec une certaine force par rapport à cette situation. Et le fait qu'il leur rappelle qu'il ne sera pas toujours avec eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, physiquement, le Seigneur va repartir dans le ciel. Mais il ne l'entendait pas ça. Il ne voulait pas l'entendre. Il mettait cette pensée de côté. Parce que vous allez le voir après, le texte que nous allons regarder ensemble, la seule discussion qu'ils avaient, c'était qui va être le premier dans le ciel. Voilà la seule motivation qu'il pouvait avoir, et on va le voir après par la suite, c'est que qui va être à côté de Jésus-Christ dans le ciel. Le Seigneur va les reprendre là aussi. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi les disciples avaient-ils échoué dans cette situation? Eh bien parce que je pense qu'ils avaient négligé leur marche spirituelle. Ils avaient oublié la prière. Et le Seigneur va les reprendre littéralement. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Alors je me suis posé la question, mais Les disciples, est-ce qu'ils ne savaient pas faire ce qu'ils avaient à faire? Je dirais l'essentiel, sûrement. La situation là, elle était apparemment apparente. Ils pouvaient faire tout ce que le Seigneur leur avait demandé de faire, puisqu'ils en avaient le pouvoir. Et dans la situation, eh bien, ils ont oublié l'essentiel, la prière. Ils étaient sûrement refroidis, peut-être. Leur ferveur spirituelle avait sûrement diminué. Une situation, peut-être que le fait que les trois disciples étaient partis avec Jésus, ils se sont retrouvés tout seuls à un moment donné, et ils ont simplement oublié l'essentiel avec le Seigneur. C'est que même le fait d'avoir du pouvoir, on peut négliger l'essentiel. Je voudrais juste vous rappeler, frères et sœurs, que le Seigneur, quand il est reparti au ciel, il a dit à ses disciples, « Je vous laisse pas seul, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On le sait que le Seigneur ne nous a jamais laissés seuls. On prend conscience de ça, mais on oublie parfois l'essentiel, c'est de marcher par la foi. Laissez-moi vous rappeler Romains chapitre 1er, verset 17. Le juste vivra par la foi. Est-ce que nous vivons par la foi parfois dans notre vie, ou nous oublions cet aspect essentiel de la vie chrétienne? La prière agissante du juste a une grande efficacité. Est-ce que nous prenons conscience dans nos vies que la prière agissante du juste a une grande efficacité? Est-ce que nous prenons conscience dans nos vies que le Seigneur nous a dit, Matthieu chapitre 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? N'est-ce pas un passage encourageant de savoir que nous pouvons demander au Seigneur des choses? Nous pouvons taper à la porte du ciel et demander au Seigneur des choses pour libérer, là, la situation. C'était un enfant qui était atteint d'un démon. La Bible va beaucoup plus loin que ça. Jésus a dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui est fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-la dans la mer, cela se ferait. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà demandé à une montagne d'être ôtée et de la jeter dans la mer, mais c'est une promesse de la part du Seigneur. Hein. Vous pouvez déplacer des montagnes. Hein. Vous pouvez déplacer des montagnes. Hein. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Luc chapitre 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. On peut déplacer des montagnes, on peut déplacer des sycomores. Qu'est-ce qu'on attend pour ne pas faire ça? Ouais. Entre vous et moi, le Seigneur nous donne l'autorisation de déplacer des montagnes. Le Seigneur nous donne des occasions de déplacer des pommiers, des poiriers. Le Seigneur nous donne l'occasion de déplacer des sycomores. Mais pourquoi on n'attend pas le faire? Moi, je pense que les disciples avaient négligé l'essentiel. Et c'est ça le secret que le Seigneur est en train de leur dire. Vous avez négligé la prière. Dans cette situation, vous auriez pu guérir ce démon, ce jeune enfant, sourd et muet, mais vous avez négligé l'essentiel, la prière. Moi, je pense que ça m'a repris personnellement dans mon cœur. Je pense que bien souvent, on néglige l'essentiel. Le Seigneur nous donne les secrets dans la parole de Dieu, mais il nous donne aussi la méthode, comment faire en tant qu'enfant de Dieu, et on en oublie malheureusement l'essentiel. Ça, c'est pour le deuxième secret. Alors, arrêtons de déplacer des montres de terre, mais que nous puissions apprendre en tant que disciples de Jésus-Christ à déplacer des montagnes et des sycomores. Ça, c'est la leçon que je voudrais que nous puissions retirer ce matin, dans ce deuxième secret. Le troisième secret se trouve dans le passage 30, et toujours de l'évangile de Marc, chapitre 9. Et je vais lire à partir du verset 30 jusqu'à la fin. Ils partirent de là, ils traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Quand il enseignait ses disciples, il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Et ils le feront mourir, et trois jours après, il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur dit, « Pourquoi discutiez-vous en chemin ?» Moi, j'aime bien beaucoup ce genre de petite expression. « Pourquoi êtes-vous en train de discuter en chemin ?» Est-ce que vous pensez qu'ils étaient en train de discuter sur la résurrection, sur la mort de Jésus? Vous pensez. Regardez ce qu'il dira au verset 34. « Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. » Alors sûrement, il y avait des tailles à l'époque. Ce n'était pas uniforme. Aujourd'hui, on voudrait nous mettre tous à la même taille. Mais à l'époque, il y avait sûrement des gens qui étaient plus grands l'un que l'autre. Et ils discutaient de cela. Qui était le plus grand en tant que disciple? Alors, il s'assit, Jésus, appela les douze et il lui dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans les bras, il lui dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jésus lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne te suit pas, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui fait un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et puis après, par la suite, il va donner l'avertissement de scandale par rapport à un petit enfant. Alors, c'est le troisième secret, et ça sera le dernier. Il va être un petit peu plus court que les autres, mais servir le Seigneur, notre Seigneur, conduit toujours à l'honneur. Pardon, mais nous ne devons pas oublier l'essentiel. C'est que l'essentiel, elle est que dans nos églises, on ne doit pas discuter qui doit être le plus grand ou le plus petit. Il y a des grands et il y a des petits. Le Seigneur a donné des dons à l'un comme à l'autre. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que ces dons doivent être au service de l'Église. Les disciples avaient reçu beaucoup de la part du Seigneur, mais malheureusement, ils étaient en train de marcher par la vue et non pas par la foi. Je pense que nous devons nous rappeler l'essentiel dans ce domaine, que si tu veux être le premier, ben tu seras le dernier. Et si tu veux être le dernier, bien le Seigneur peut t'honorer en étant le premier. L'égoïsme doit être chassé de notre vie. Notre société aujourd'hui pousse l'humanité à être toujours le premier. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être le premier. Ça veut dire que bien souvent l'homme se bat pour être le premier. Et en voulant être le premier, il détruit tout ce qui passe devant lui. Il suffit d'avoir travaillé dans une société, et je l'ai été, j'ai travaillé dans une société, je voyais bien que les rivalités, bien souvent, c'était, je pense que vous allez comprendre cette expression, la lèche. Vous comprenez cette expression? À celui qui va brosser le poil, le meilleur à son chef. Et j'ai rencontré dans ma vie, moins maintenant, mais des spécialistes. Si vous regardez au gouvernement aujourd'hui, vous avez des spécialistes, des personnes qui brossent le poil, surtout à notre président de la République, pour avoir le meilleur poste. Et si jamais ils ne l'ont pas ce meilleur poste, alors vous avez des lettres de démission qui tombent sur la table. Mais dans notre pays, c'est une spécialité, cette affaire-là. Et nous voyons que les disciples étaient très modernes. Hein. Qui est le plus grand parmi nous? Et j'ai l'impression que bien souvent, le Seigneur a besoin de nous le rappeler. Pas besoin de vous quereller. Les places dans l'éternité, vous serez tous à la première place, j'ai envie de dire, dans l'éternité. Vous verrez tous Jésus-Christ, parce que les places dans l'éternité seront comme dans les gradins, vous savez, des stades de football. Vous avez beau être à la dernière place, vous voyez les joueurs jouer dans le centre comme si vous étiez avec eux. Et bien souvent, ceux qui sont à la première place ne voient pas toujours ce qui se passe dans le stade de football. Mais dans l'éternité, on verra le Seigneur au centre. La Bible dit qu'il est sur un trône de gloire et tout le monde le verra. Et nous avons besoin de nous le rappeler. Quelle belle leçon pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ne fais pas de mal à un petit enfant. Vous savez, les animaux se comportent vraiment de manière magnifique, parfois. Il suffit de voir une maman et son enfant. Quand on voit certains reportages, on ne touche pas le bébé. Hein? Le bébé de l'éléphant, on ne touche pas. De l'ours, encore moins. On ne touche, il y a une certaine protection qui se passe, on ne touche pas bébé. Avec le Seigneur, c'est exactement pareil. On ne touche pas bébé, on ne touche pas la personne qui a accepté Jésus-Christ. On ne le touche pas. Le Seigneur a une certaine protection sur vos âmes. Il vous connaît, il sait qui vous êtes. Il prend soin de vous, la Bible nous dit. Et je trouve que c'est quelque chose de merveilleux de savoir que le Seigneur est là dans sa protection. Il nous fait du bien. Il nous encourage, il nous console quand nous avons besoin d'être consolés. Il nous protège, il nous garde. Et je pense que c'est important, en tout cas, de le remarquer. Trois enseignements qui ont été apportés dans ces trois secrets. Le premier enseignement, si nous nous livrons à lui, la souffrance nous conduira à la gloire. Et je pense que penser que notre chemin ici est un chemin où rien ne nous arrivera, je pense que c'est une illusion. Penser que notre vie sera une vie parfaite, où aucune épreuve peut nous atteindre parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, je pense que c'est une illusion. Notre vie est une vie parfois de souffrance, de circonstances difficiles, mais elle nous conduira toujours à la gloire. Deuxième enseignement, la foi produit une puissance. Et je pense que je viens de le rappeler, quand je dis que le juste vivra par la foi, nous devons vivre par la foi. Si vous négligez cette partie-là de votre vie, à un moment donné, eh bien, je pense que vous passez à côté, je dirais, de l'essentiel de votre vie chrétienne. Alors, bien souvent, le mot « foi », pour nous, c'est des choses qui sont extraordinaires. Mais en réalité, quand je regarde les histoires que nous avons dans la parole de Dieu, eh bien, ce sont des hommes comme vous et moi, des personnes qui vivaient des expériences, mais qui ont fait confiance à un moment donné, dans un but bien précis, ont fait confiance à leur Seigneur, plus que toute autre chose. Et troisième enseignement qui est donné dans cela, c'est notre service accompli pour le sacrifice nous mènera à l'honneur. Alors on voudrait des couronnes ici. Hein. Alors là, les couronnes, on voudrait en avoir quelques-unes hein, ici sur cette terre, mais le Seigneur vous attend les bras ouverts, sûrement avec plusieurs couronnes, mais c'est dans l'éternité. Un jour, ma belle-mère m'a dit « Comment je vais être au ciel ?» Alors, j'ai cherché dans la parole de Dieu certains passages « Comment on pourrait être au ciel ?» Alors, elle m'a demandé si les anges avaient des ailes. Bon, fallait réfléchir, hein, trouver un texte hein, pour l'encourager. Ben, je n'ai pas trouvé de texte savoir si les anges avaient des ailes. Est-ce que les anges avaient des patins à roulettes? Parce que ma belle-mère avait des difficultés à marcher. J'ai pas pu lui répondre. Est-ce qu'elle marcherait avec un déambulateur dans le ciel? J'ai pas pu lui répondre. J'ai pas pu donner cette réponse. Mais je sais ce que je lui ai dit, c'est que dans le ciel, on aura un corps glorifié. Sans douleur. Sans pleurs. Sans tristesse. C'est pas merveilleux, ça? Qu'importe si on a des ailes ou pas, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus ce genre de choses dans notre existence parce qu'on sera proche de Jésus-Christ. Et c'est ça qui compte, mes frères et sœurs. C'est qu'on aura un corps dans le ciel glorifié. Pierre a dit à une église qui était dans la souffrance, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, vous relèvera lui-même et vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. J'attends franchement ce fondement solide avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen.